20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 24 septembre 2017. On apprend que Bernard Tapie est atteint d'un cancer. 4 ans plus tard, il s'est éteint à Paris, entouré de ses proches, après avoir vécu, ce sont ses mots, d'une manière incroyable, formidable. C'était hier et c'est ce soir, jusqu'à 21h dans Jour J. Nous sommes le 24 septembre 2017. Dominique Tapie confirme la rumeur à l'agence France Presse. Bernard souffre d'un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l'œsophage. Sa nature de battant et l'affection de sa famille, de ses proches, mais aussi les formidables témoignages d'encouragement qu'il reçoit, nous rendent optimistes. Le dimanche 3 octobre 2021, hier donc, c'est encore elle qui annoncera avec tristesse la mort de son époux au journal La Provence. Un amour qui aura duré 52 ans et jusqu'à la dernière révérence de celui dont on ne cesse de dire depuis qu'il a eu 1000 vies. Car raconter Bernard Tapie, c'est naviguer sur tous les océans et par tous les temps. Homme d'affaires, artiste, entrepreneur, personnalité politique, malade, humble et courageux, il aura, son existence durant, relevé tous les défis, mené tous les combats, décroché la lune, grimpé très haut, tombé très bas, tout gagné, puis tout perdu. De la pelouse du stade Vélodrome au banc de l'Assemblée nationale, de son yacht, le Phocéa, au parloir de la prison de la Santé, des scènes de théâtre au service d'oncologie de l'hôpital public, Bernard Tapie a tracé son chemin avec les plus grands, les supporters de foot et les malades du cancer. Un homme taillé pour les batailles. Tapie en était d'ailleurs le premier artisan, comme s'il puisait sa force à mesure que les défis et les épreuves se présentaient à lui. Un prédateur hors pair dans le business qui aura été poursuivi par la justice et jusqu'à son dernier jour. Un homme de paradoxe aussi, intraitable dans le business, versant dans l'obscurité de la malversation pour réussir, il pouvait aussi pleurer et il a trouvé une lumière dans son dernier combat contre la maladie. Un homme amoureux de la notoriété, cherchant les projecteurs mais pudique sur ses secrets et ses failles. Bernard Tapie, un homme qui a introduit sa gouaille et son franc-parler dans les sphères politiques comme à la buvette des stades. Un homme de la haute qui n'a jamais oublié qu'il était aussi un mec du coin. Un nanar sévèrement burné, comme le disaient les guignols, qui envisagea la vie comme une grande cour de récréation ou comme un ring, selon qu'elle lui sourit ou qu'elle lui fasse payer. Qu'on l'ait aimé ou détesté, Bernard Tapie n'a jamais laissé quelqu'un indifférent. Portrait ce soir d'un homme, donc, qui semble avoir trouvé, au crépuscule de sa vie, sa réelle ambition.
Cherchez pas à tout coup à réussir dans la vie, mais battez-vous pour réussir votre vie. C'est plus important.
Le nom grandit quand l'homme tombe, écrivait Victor Hugo. Dans un instant, le journaliste et éditorialiste Franz-Olivier Gisbert sera notre invité pour revenir sur l'homme Bernard Tapie. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui revient ce soir sur Bernard Tapie, mais ce n'est pas sa vie que l'on va vous raconter jusqu'à 21h sur RTL. D'autres s'en sont formidablement chargés depuis l'annonce de son décès hier. Nous, c'est l'homme Bernard Tapie qui nous intéresse, ce qui l'animait, sa personnalité. Et Bernard Tapie, c'était un gouailleur, une grande gueule à la voix qui mettait tout de suite au garde à vous.
La victoire vous fait plaisir une nuit, la défaite vous emmerde 3 nuits.
Attends deux secondes. Tu lèves la main quand j'ai fini. Tu veux bien ? Sinon, ça me donne l'impression que ça t'emmerde, ce que je dis, tu vois ?
C'est un type brillantissime. Mais prends ton temps, mon gars. T'as été ministre 2 ans. Je le compare à un type qui écrit des très bons livres de cuisine, pour l'instant. Mais il fait pas encore la bouffe.
Franz-Olivier Gisbert, bonsoir.
Bonsoir.
Ça vous fait sourire d'entendre la gouaille de Bernard
oui,
Tapie.
Oui, parce que c'était ça toute la journée. Enfin, oui. Quand on le connaissait, quand on vivait, qu'on travaillait avec lui, il y avait beaucoup de choses comme ça.
Ah, c'était
oui, ça
nanar, quoi.
C'était nanar et nanar, c'était... On riait beaucoup.
Ouais, ça ouais. J'imagine. Il avait de l'humour.
Oui, beaucoup. Et de temps en temps, ça chauffait aussi. Parce que, voilà, il se mettait en colère pour assez facilement. Moi, ça m'arrivait aussi de grimper dans les tours, donc il y avait des grosses engueulades qui finissaient toujours en embrassade, parce que c'est un grand sentimental,
voilà, c'est ça,
un affectif.
Voilà, c'est ça, c'est
que ça pétait. Oui, mais c'est un affectif.
Fort.
Donc, de toute façon, on savait quand on s'engueulait. Je me souviens de trucs où il m'a pourri et moi je hurlais, mais un peu, comment dire, vous voyez, parce que j'ai ma dignité, donc ouais. Et puis je me marie en disant bon allez, et demain tout ça c'est fini, on va s'embrasser.
Ouais, c'est ça.
C'était toujours comme
l'orage,
ça.
L'orage et l'éclaircie.
Pas grave. Oui, ouais. C'était pas grave.
Il n'y avait pas une grande gravité. Quand on pense à Bernard Tapie, on pense tout de suite donc à ça, sa gouaille, et puis à son côté vendeur. Il aurait vendu des glaçons à un Inuit, quoi.
Ben ouais, n'importe quoi. Oui, ça. Mais c'était juste incroyable.
Mais il a compris très vite en
plus. Oui, mais c'est pas seulement la vente. Moi, ce qui me fascine chez lui, c'est le côté chef de bataillon, organisateur, le type qui va tout de suite voir la faille, vous voyez, dans une organisation. C'est plutôt ça qui me fascinait chez lui. C'était...
Il avait une sorte de scanner.
Très rapide, voilà. Très rapide, très vif, intuitif, bien entendu.
Ouais.
Et extrêmement rapide, et il comprenait tout de suite une situation. Alors, il n'était pas comme certains hommes de cette trempe, c'est-à-dire à vous déchiffrer tout de suite. Hein.
Ouais.
Je connais deux, trois, par exemple, grands chefs d'entreprise. Quand vous croisez leur regard, il faut faire gaffe parce que c'est un laser et il vous traverse le cerveau et il comprend ce qu'il y a dedans. Il n'était pas tout à fait comme ça, mais c'était un immense intuitif, ouais.
Ouais. Sagouaï, c'était un sésame aussi pour les milieux populaires. On se disait, bah voilà, ce mec-là, il parle comme nous, quoi.
Bah, il venait de là, oui, il ne faut jamais oublier qu'il venait d'un taudis. Enfin, c'est là qu'il a passé son enfance. Après, son père a monté sa petite entreprise, 20 mètres carrés, à 4.
Pas,
c'est,
ouais.
Donc, ils sont deux parents, un frère cadet, ils sont quatre là-dedans. Ils se lavent dans une espèce de bassine près de l'évier. Vous voyez, enfin, c'est compliqué.
C'est ce que je disais, c'était un homme de la haute qui n'avait pas oublié qu'il était un mec du coin.
Il restait toujours tel qu'il avait été lui-même. Et quand il parlait comme ça, avec cette gouaille, il ne faut pas oublier qu'il a passé son enfance... Bon, il a essayé de sortir du tiroir, comme il disait. Hein. Donc il a fait du violon, il allait au Louvre, etc. Mais il a quand même passé son enfance au parc, espèce de stade municipal qui était en face de sa maison, au Bourget, ouais. Enfin, de sa maison, espèce d'appartement qu'ils avaient. Et en fait, il jouait au foot, enfin, il faisait tous les sports possibles, imaginables. Et en fait, il avait un langage très sportif. Il faut bien... Tapis, il y a un côté très sportif,
ouais.
Quand on
y reviendra là-dessus.
Et même sur le tard. Et même encore, je vais vous dire, malade, quand il était tout affaibli, qu'il faisait une quarantaine de kilos, c'était horrible. Enfin, voilà, ouais. Et qu'il était tout souffrant, il faisait des escaliers. C'est-à-dire, il montait et descendait les escaliers chez lui pour tenir face à la maladie. C'est-à-dire, il pensait toujours, voyez, on sait très bien, on l'a appris, pour lutter contre, par exemple, la dépression, une forte dépression, faut faire du sport, il faut marcher, il faut faire du vélo. La dépression, elle part tout seul. Tout seul, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. À chaque fois que ça m'est tombé dessus, je fais ça naturellement sans le savoir, jusqu'à ce qu'on me dise un jour que c'était effectivement la meilleure méthode, et ça marche. Et lui, même face à la maladie, il pense que le sport va l'en sortir. Et d'ailleurs, il a tenu longtemps, je crois aussi, parce qu'il a essayé d'entretenir son corps jusqu'au bout. Il faisait quand même 100 km pour aller à Combs-la-Ville, dans la région parisienne, sa résidence secondaire, sur son vélo. Il faisait ça chaque semaine. Il a fait ça jusque, je dirais, 2019. 2019, peut-être même 2001.
On reviendra justement sur Tapie, le combattant, le combatif. Il avait peur de rien aussi, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez, justement, parce qu'on va voir à quel point il misait sur ses talents oratoires, est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots, très rapidement, l'histoire des châteaux de Bocassa? Vous allez comprendre pourquoi je vous demande ça.
Oui, bah, c'est...
On est à la fin des années 70.
À un moment donné, il essaye d'acheter les châteaux de Bocassa, et on l'accuse de faire ça, en fait, pour faire une affaire. Et lui, il dit non, c'était je voulais les rendre, je voulais faire une opération avec l'UNICEF. C'est-à-dire, j'ai tendance à croire cette deuxième version, parce qu'en fait, il y avait chez lui, dès le départ, l'idée de se faire connaître. Il y avait quelque chose de médiatique, vous voyez. Il voulait...
La lumière.
La lumière, et quand on le connaît un peu, l'argent passait après. Il savait faire de l'argent. Ça, c'est vrai, il disait toujours, attends, arrête. Moi, quand je lui donnais des conseils, par exemple, sur la Provence, arrête, attends, le type qui sait faire de l'argent, c'est moi. Mais c'était pas forcément pour le dépenser, d'ailleurs. Il le dit dans le bouquin, à un moment donné, il a découvert que quand tous ses biens ont été saisis dans l'hôtel particulier, il était avec sa femme, ils avaient juste la chambre et la cuisine, il disait, mais c'est pas plus mal.
Ouais.
Donc, vous voyez, il peut vivre dans une certaine...
Ouais.
Dans sa certaine... c'est pas un ascétisme, évidemment, ça restait un hôtel particulier.
Non, mais dans un milieu modeste,
quand il n'y avait plus de meubles, il n'y avait plus rien, et qu'il faisait du camping dans une espèce de grand truc comme ça, et ben voilà, il trouvait finalement, c'était pas si mal.
On poursuit sur la gouaille, si vous le voulez bien.
Ouais,
je vous ramène au château de Bocassa. Bon, bref, il rachète les châteaux à Bocassa, déçu, donc empereur autoproclamé centrafricain, à un prix d'un trois pièces. Grosso modo, c'est comme ça.
Oui.
Il dit qu'il va donner cet argent à l'UNICEF. Il arrive quand même, alors qu'il est totalement inconnu, à faire la une du Times. Et puis, l'affaire commence à sentir mauvais. Alors, Alors qu'Antenne 2, à l'époque, veut l'interroger sur cette histoire, dont on flaire effectivement qu'elle n'est pas très claire, Bernard Tapie entraîne la journaliste dans sa belle voiture. Donc déjà, ça en jette. Miracle pour Tapie, le fils de Bokassa, prénommé Saint-Cyr, passe lui-même devant la voiture. Et là, puisqu'on parlait de gouaille, Bernard sort le grand jeu.
Ouais, celui qui arrive là, c'est Saint-Cyr Bokassa. Là, vous allez pouvoir faire un truc fabuleux là. Au feu rouge, si tu te manges un peu, on le rattrape. Fais-lui des appels.
Salut, hey, viens me faire. Salut Saint-Cyr, comment tu vas?
Ça va très bien.
Je te présente.
Bonjour monsieur.
Antenne 2, une journaliste. Enchanté. Et un. Voilà. Salut Saint-Cyr. Tu vas à mon bureau là? T'y
allais? Non mais attendez, même là, ça fait rire quoi. C'est-à-dire que le fils de Bokassa passe. Non mais je veux dire, il a eu quand même ce jour-là un sacré coup de bol. Et puis il perd pas ses moyens, il est devant la journaliste, ça y est, Saint-Cyr, Bokassa, tu. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que la vie est une blague, parce que j'avance. Ouais, c'est toujours.
Mais il avait du bol.
Cette phrase extraordinaire qui est tellement juste de son vieil ami Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1, qui disait: c'est une Ferrari. C'est vrai que c'est une Ferrari tapis à tout point de vue, sur le plan intellectuel, on vient de le dire, sur le plan physique aussi, la force physique. Mais c'est une Ferrari qui n'a pas de frein.
Voilà, donc rien ne l'arrête.
Oui.
Et il n'a peur de rien.
Et il fait ça en riant.
Voilà.
Parce que, et puis surtout, tout risquer pour tout gagner, comme
voilà,
il dit. C'est
exactement
ça. Tout risquer, c'est pas grave si on perd tout, de toute façon, on recommence. La vie, réussir sa vie, c'est pas très important, en fait.
Ouais, c'est enfin, ce qu'il dira plus tard.
L'ambition n'est pas si importante. Il faut surtout avoir une belle vie.
Et puis il y avait le jeu.
Il faut avoir une belle vie.
Il savait jouer.
C'est ça, le jeu.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir dans Jour J, nous revenons sur tous les Bernard Tapie que l'on a connus. On a parlé il y a un instant du gouailleur. Place à Tapie, l'ambitieux et l'homme de défi. François-Olivier Gisbert, merci d'être avec nous jusqu'à 21h en direct sur RTL. Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour. C'est le livre que l'on conseille aux éditions Presse de la Cité.
Un roman d'aventure.
Un roman d'aventure. Bah, ça a dû être une aventure d'ailleurs de bosser avec lui sur sa vie.
C'est possible. C'était fou. Dès qu'on pose une question personnelle, on a l'impression qu'il est agressé.
Mais c'est ça qui est dingue.
On peut pas, comment dire, c'est quelqu'un qui refuse qu'on rentre dans son intimité, c'est-à-dire que ce personnage qui a une image de Mathieu Vu, en fait, est quelqu'un d'une pudeur.
Mais c'est plein de paradoxes, en fait.
Il est plein de paradoxes.
Et il a pourtant la lumière, l'a tiré toujours.
Ah, ça, il aimait la lumière.
Ouais.
Il aimait la lumière et il avait toujours la nostalgie de ses débuts. Où c'est quand même une star juste incroyable quand on voit Ambition. Enfin,
alors, tous
ceux qui ont vu Ambition 5 minutes,
alors,
c'est quand même une émission sur TF1 à l'époque. C'est un,
on y arrive. Dans les années 80, écoutez bien, il devient personnalité préférée des jeunes. Il devient l'homme le plus séduisant derrière Alain Delon pour les femmes. Il est honoré du prix de l'homme de l'année par les médias en 84. En 85, il sort un disque intitulé « Réussir sa vie ». En 86, un livre gagné chez Robert Laffont. Et cette même année, il devient donc homme de télé avec son émission Ambition.
Un Français sur trois interrogé dit « j'aimerais entreprendre ». Et pourtant, un sur mille seulement entreprend. Mon ambition, c'est qu'il n'y en ait plus seulement un sur mille qui ait envie d'entreprendre. C'est qu'il y en ait cinq, c'est qu'il y en ait dix, c'est qu'il y en ait cent. Et qu'enfin, parce qu'on est le pays le plus génial, on devienne aussi le pays leader.
Allez. Il était super motivant. Moi, je me souviens, j'étais gamine, je regardais Bernard Tapie à la télé, je me disais, tout est possible. Mais il avait un côté très américain, d'ailleurs.
C'est un charisme dingue. Ça, Mitterrand l'a repéré tout de suite.
Ouais,
la première fois qu'il le voit à la télé, Mitterrand se dit, il faut faire quelque chose avec ce type.
On reviendra sur sa carrière politique.
Ouais. La crise, c'est comme ça que ça commence. Mais c'est Mitterrand, mais c'est sa carrière d'homme de télé, là, que je suis en train de raconter, parce que c'est Mitterrand, le voyant dans Vive la crise, avant de penser qu'il va, en faire quelque chose en politique, il se dit, mais ce type, il faut le mettre à la télé souvent.
Ouais.
Et donc, il téléphone à TF1. Ce serait bien de lui faire une émission pour, vous trouvez pas, pour vendre l'entreprise, expliquer que c'est bien d'être entrepreneur, parce qu'il trouvait que, contrairement aux autres patrons, par exemple dans l'émission Vive la crise avec Yves Montand, vous vous souvenez, c'était Mathusalem, vous n'étiez pas né, mais c'était une émission qui avait beaucoup marqué, marqué les gens, parce que, comment dire, elle expliquait qu'il y avait des choses à faire avec l'entreprise, le capitalisme, etc. Et c'était beaucoup de vieux patrons, un peu des barbons qui racontaient leurs trucs, et là il y avait ce type qui était tout à fait original au milieu et qui croyait et qui donnait envie et qui a donné envie à des tas de chefs d'entreprise. Je pense par exemple à Xavier Niel, le patron de Free, qui a souvent dit après, c'est Tapie qui lui avait donné envie. C'est pas le seul. Grandjean, Simoncini, tous ces gens-là sont les enfants de Tapie, ou Teljade aussi. En le voyant, ils se sont dit, ah ouais, finalement, tiens, Ouais, je montais mon entreprise.
Alors, ça a eu un impact incroyable, cette émission Ambition. Pourtant, elle a duré juste un petit peu plus d'un an. Michel Cotta, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel, c'était le CSA de l'époque, oui, estime que cette émission Ambition, donc, sert surtout celle de Bernard Tapie. Il y a eu aussi les écoles de la réussite qu'il a fait ouvrir un peu partout en France. Est-ce que c'était vraiment de la philanthropie pure ou est-ce qu'il y avait du marketing derrière tout ça?
Bah, les deux, mais il y a évidemment de la philanthropie pour une part. Je ne suis pas en train de vous canoniser Bernard Tapie, mais il touchait beaucoup d'argent avec ça.
Et voilà.
Ah bon, bah, l'argent, elle n'allait pas dans sa poche. Ça allait à des fondations, je crois que c'était l'abbé Pierre à l'époque. Oui. C'est-à-dire, il ne voulait pas toucher d'argent là-dessus. Donc, c'est toujours un mélange, Tapie, évidemment. Il y avait l'idée de s'en servir pour faire des choses. Mais pour faire des choses, les écoles de la réussite, c'était pas mal. Il y a eu énormément de gens qui sont passés par là. Donc,
c'est comme un peu les écoles de la seconde chance de Thierry Marx aujourd'hui, voilà, par exemple.
Exactement,
c'était vraiment porté de sens.
Oui, et puis ça donnait du sens. Donc, c'était pas juste pour ma gueule.
D'accord.
Vous voyez, c'était plus difficile. Bon. Et puis en plus, il n'est pas encore dans la phase politique. Mmh. Il était dans une phase où voilà, il voulait partager. De toute façon, il y a toujours eu ça chez lui. Les autres. Il dit toujours les autres, on a besoin des autres, on vit avec les autres. Le cancer, son combat, je vais le mener avec les autres, pour les autres, avec les autres.
Hey, les équipes,
ça revient tout le temps, des
équipes.
Et d'ailleurs, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, c'est un chef d'équipe.
Alors
c'est,
justement.
C'est ça son truc. Et il sait coaliser les gens, les mettre ensemble pour essayer d'en tirer le meilleur.
Parce que justement, dans ces défis, il y a eu le foot, une équipe. Avec l'OM, le cyclisme, avec la vie claire.
Attendez, ces histoires-là, c'est complètement dingue.
Oui, mais alors
c'est
justement.
C'est-à-dire qu'il va pas les chercher. C'est les gens qui viennent le voir. Il y a Bernard Hinault qui vient le voir un jour avec des béquilles parce qu'il a sa tendinite. Il dit Cyril Guimard, qui est le patron de son équipe, ne veut plus de moi. Il n'en a que pour que pour Laurent Fignon. Est-ce que vous pourriez pas m'aider? Est-ce qu'on pourrait pas monter une équipe ensemble? Bien réfléchi. Tiens, la vie claire. Tiens rien. Ah oui, il venait d'acheter la vie claire. Bah très bien, ça va, c'est très bon, la vie claire, ça vend du bio, le bio, le sport, et voilà, donc
pas
ça va s'appeler l'équipe, l'équipe, la vie claire. Et surtout, ah oui, alors attention, pas de dopage, oui, ça c'était très important tout de suite, parce que la vie claire, faut pas de dopage, ça c'est
ou du dopage
donc,
bio.
Ah non, dopage bio, donc il était obsédé, quand il avait son équipe de cyclisme, surtout pas de dopage, parce que la vie claire, évidemment, on pouvait pas, bon,
ouais.
Bref, et donc... C'est par hasard, ça vient par hasard. Et puis là, quelques temps plus tard, il déjeune à l'ambassade d'Union soviétique. C'est un déjeuner que vous l'invitez, Gorbatchev, avec beaucoup de personnalités, enfin ce genre de dîner hyper chiant. Et il est assis à côté d'Edmond Chalouroux, la femme de Gaston Defferre, qui lui dit oh, on a vraiment des problèmes avec l'OM, ça marche pas du tout. Et qu'est-ce que vous avez fait comme ça là? Parce que c'est vrai qu'il s'est lancé comme ça dans le cyclisme, voilà, c'est venu en quelques mois. Et ça, il a relancé le truc très vite. Et pourquoi vous ne pourriez pas ça à l'OM? Ça l'intéresse un peu, voilà, quelques mois passent. Il oublie, mais Edmond Chalouroux n'oublie pas, parce que c'est un peu le poisson pilant de Gaston Defferre, et puis elle veut toujours, elle cherche des énergies, des talents. Et Gaston le reçoit, lui propose ça, il prend, et puis voilà. Et puis c'est la grande aventure qui commence.
Dans un instant,
jusqu'à la Ligue des Champions.
Trouve, absolument. On se retrouve dans un instant sur Dans Jour J. On va parler de Tapie, l'homme animé par la politique. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se concentre sur l'homme Bernard Tapie, car les chapitres de son existence, on les connaît, même si dans un instant avec Franz-Olivier Gisbert, notre invité en direct jusqu'à 21h, Franz, nous allons aborder maintenant l'homme politique. On parlait d'ambition il y a un instant, vous nous expliquez que ses ambitions c'était aussi celles des autres, en réalité ça n'était pas que la sienne, la politique là c'était le summum pour lui quand même.
Oui, mais je ne suis pas cucu quand je dis ça, parce
non,
que
non,
c'est vrai qu'il y avait toujours le côté équipe, vous voyez,
ouais, mais
il
je
a fait
vois
beaucoup de sport d'équipe. Alors vous disiez jusqu'à 21h, je pense qu'il faut tenir peut-être jusqu'à 3-4 heures du matin parce qu'il y a, tellement de vie.
J'adorerais passer la soirée avec vous, mais ça va être compliqué.
De vie.
Oui.
C'est juste
mais
incroyable.
C'est
mais on n'en peut plus. Et des vies de toutes sortes, bien entendu, très contradictoires.
Vous parlez justement des références au sport. Le 7 avril 92, Tapie entre dans le gouvernement Bérégovois où il devient ministre de la ville. Voici dans quel état d'esprit il envisage son nouveau rôle.
J'ai eu un sentiment incroyable de motivation comme je n'avais pas connu dans la classe politique depuis que j'y suis. Il faut dire que je ne suis pas depuis longtemps, je suis que depuis 3 ans. Ce qui fait qu'à la limite, le délai court qui nous est imparti risque d'être un facteur positif au lieu d'être un facteur négatif. Tous les gens qui sont dans cette équipe ont une envie farouche de réussir et de gagner, donc, puisqu'on les a donnés perdants. C'est un peu comme dans un match de foot, quand on fait une contre-performance, le match d'après, en général, on est très très motivé.
Et en fait, il ne parlait... Enfin, je veux dire, il faisait toujours référence au sport.
Oui, mais c'est, vous voyez ce qu'il dit là, par exemple, c'est que je veux pas dire qu'il ait acheté le gouvernement à la baisse, mais enfin bon, de toute façon, il est de gauche, donc spontanément, il allait, enfin de gauche, une gauche particulière, je dirais plutôt centre-gauche, mais donc, il allait spontanément dans ce gouvernement, mais c'était un gouvernement de perdants, les sondages étaient calamiteux, et d'ailleurs en 93, c'était une défaite historique pour la gauche, absolument un truc calamiteux, et lui, il pensait quand même que, voilà, ça pourrait marcher comme au sport. Comme au football.
Oui, on se relève.
Les situations brusquement se retournent. Parce qu'en organisant mieux les choses, en refaisant les équipes, et finalement, on peut y arriver.
Et ça a été quand même une mission de courte durée, hein, parce qu'il sera resté 52 jours.
Bah, je pense
rattrapé
que
par une affaire.
Là c'est son épouse, Dominique, qui avait raison. Ouais. C'est-à-dire, la politique, il ne fallait pas qu'il y touche. La politique l'a tué. Et là, déjà, c'est très dur, parce que dès qu'il est ministre, il y a plein d'affaires qui sortent. De partout, de nulle part, d'ailleurs. Des affaires bidons, qui sont dégonflées les unes après les autres. La juge Joly le massacre comme elle peut. Enfin, de toute façon, bon, au bout d'un certain temps, parce qu'il est obligé de partir au bout de quelques semaines du gouvernement, et il reviendra quand les affaires sont réglées. Les affaires, bon, parfois la justice est un peu rapide. Finalement, elles seront réglées, il reviendra.
Voilà,
mais à l'arrivée, il reste pas très longtemps au gouvernement.
Non.
Il a pas tenu très longtemps à cause de la justice qui s'est déchaînée contre lui à ce moment-là. Et je ne parle pas évidemment de ce qui est arrivé après.
Voilà, alors toutes les affaires effectivement qui tombent. En 1995, la prison pendant 165 jours, prison de la santé. Alors ça, c'est épisode qu'il a très mal vécu, ça, France.
Ouais, très 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 mal. Alors, vous savez, le juge Éric de Montgolfier, le procureur, qu'il a... c'est lui qui a mené l'enquête. Enfin, c'est pas vraiment les procureurs qui mènent l'enquête, mais enfin, il a quand même suivi l'affaire de très près. Il a quand même dit un jour, c'était son principal ennemi, il aurait pas dû faire de la prison. Bon, c'était cette histoire-là, elle est quand même... Elle est allée très loin et il a très mal vécu la prison, il en parle. Bon, en même temps, si vous voulez, il assume. C'est-à-dire que, attention, il a mal vécu la prison, mais il y a quelque chose chez Tapie qui est intéressant, c'est qu'il se plaint jamais. Hein, c'est-à-dire que moi je me souviens l'avoir vu souffrir devant moi et c'est et alors un peu bêtement vous allez dire ça va, là il va vous fusiller du regard et voilà parce que ça vous regarde pas et puis après il va faire vous voyez quand les élancements de la douleur tous les cancéreux connaissent ça et ça c'est absolument Tapie, c'est-à-dire jamais de plainte, jamais de plainte, j'avance, je ressuscite, je suis tombé, c'est pas grave, je vais me relever, c'est comme ça.
En fait il avançait tout le temps. Parmi les affaires innombrables qui l'ont poursuivi à la fin des années 90, l'affaire dite du Phocéa du nom de son yacht, vous en parliez, la juge Eva Joly, voici ce que Roland Dumas raconte de Tapie lors de cette entrevue avec la juge Eva Joly au micro d'RTL en 2013. On va retrouver le nanar gouailleur.
Alors madame, on dit que quand on entre dans votre cabinet, on va coucher en prison ou on est dans votre lit en sortant. Enfin monsieur Tapie, non mais parce que moi j'ai horreur d'aller en prison.
Non mais Franz, il n'avait peur de rien.
Ah oui, mais c'est ça.
Il est convoqué par la juge Eva Joly et il la provoque en disant soit je pars en prison, soit je finis dans votre lit.
Oui, mais ça, c'est ça.
C'était le pouvoir de séduction, justement.
Non, c'est pas le pouvoir. Là, c'est la gouaille à la rigolade.
Attends, moi, je me serais dit, il y va, mais j'aurais peut-être été.
Non,
je parle pas d'une proposition, pardon. J'aurais été séduite par l'audace de mon interlocuteur. Si j'avais été la juge Eva Joly, je me serais dit,
pourquoi il le fait?
Enfin,
Pourquoi c'est drôle? Parce que Madame Joly n'est pas drôle du tout. C'est un bon ennemi. Elle est triste comme la mort quand vous la voyez. Donc forcément, ça c'est lui. C'est-à-dire qu'il voit cette pauvre femme aigrie, malheureuse qu'on veut la terre entière pour on ne sait quelle raison. Et voilà, il lui balance la purée. Et voilà, c'est ça. C'est Tapie. Et évidemment, là-dessus, on peut dire que c'est un peu déconnant parce qu'elle va se venger. Et puis les juges ne vont pas l'aimer à force de se faire insulter parce qu'il avance, il rigole, il se marre.
Vous qui l'avez bien connu, François-Olivier Gisbert, puisque vous avez travaillé sur ce fameux livre, Tapie, ce livre comme jamais,
un livre sur Tapie, c'est un cauchemar.
Alors voilà.
Gueulade sans arrêt, c'était très, très long et difficile.
Oui, mais alors justement, Eva Joly, on en parlait, elle a confié quand même qu'on lui faisait partager sa cellule quand il était à la prison de la santé avec des jeunes perturbés parce qu'on savait qu'il allait les prendre sous son aile et qu'il organisait des matchs de foot à la prison. C'était ça aussi le Tapie
que
vous avez
connu.
C'est
ça sans arrêt, c'est-à-dire si vous avez un gosse, par exemple, qui a des problèmes de drogue ou autre, mais de toute façon, spontanément, il va le convoquer, il va vouloir le voir, il va lui parler, parce que c'est Tapi, il va se mêler de ça, bien sûr. Oui, une sorte de parrain, mais parrain dans le sens avec un petit P, pas le parrain de Mario Puzo de la mafia, vous voyez.
J'entends.
Espèce de oui, c'est ça, tout le monde est un peu son filleul. Et alors, la politique, en plus, c'est là que se noue le grand drame, c'est que au moment où il devient ministre, il a racheté l'une des 5 plus grandes marques du monde, Adidas. Il a racheté, c'est un de ses meilleurs, le meilleur coup, le grand coup de sa carrière. C'est une énorme entreprise. Et d'ailleurs, il va la remonter très vite parce que l'entreprise se portait très mal parce que elle fabriquait tout en Europe. Et à l'époque, ses grands concurrents, notamment Nike, faisaient tout en Asie. Bon, ben, il a fait ça, il a délocalisé. Et ça, c'est reparti tout de suite. Et là, il va se faire voler la boîte, mais voler au coin du bois, une arnaque hallucinante, et c'est vrai que là-dessus, il va se battre contre les monstres froids de la justice et de l'État pendant des années, pour son honneur. Parce que souvent, moi, je disais, mais qu'est-ce que t'as besoin de t'emmerder avec ce genre de fric pour récupérer du fric que tu gâches tes dernières années? Je disais, mais non, tu comprends pas, c'est mon honneur, je suis sali, tout le monde dit que je suis un escroc, c'est pas vrai, etc. Parce que c'est vrai que...
Il avait un petit côté roublard, quand même.
Ah, c'était un roublard. France. Mais je veux dire, c'était pas un escroc, je pense pas. Pas à ma connaissance. C'est pas un escroc. C'est un roublard. C'est quelqu'un qui avance vite. Je répète, c'est une Ferrari qui n'a pas de frein. Il va tellement vite qu'il regarde pas derrière et ça fonce. Mais c'est pas... non.
Enfin, il a quand même fait quelques trucs pas jolis.
C'est pas un escroc, je vais vous dire. C'est tellement pas un escroc que la justice l'a blanchi. Il est mort innocent, je vous signale, parce que en première instance, le procès pour fraude soi-disant, enfin le soi-disant arbitrage frauduleux, prétendument frauduleux, qui aurait été une escroquerie en bande organisée, selon les juges, notamment le juge Tourner qui l'ont mis en question, et ben à l'arrivée, il y a eu quand même un verdict de plus de 240 pages qui dit noir sur blanc, mais non, il n'y a pas eu de fraude.
Bon, et puis
il a été blanchi par la justice, il est mort innocent.
Voilà, on précise innocent. Que la procédure s'est éteinte aussi en même temps que Bernard Tapie.
Et au civil, il était condamné, ce qui est vrai, à rembourser, mais en général, le civil est moins important que le pénal, et en principe, c'est le pénal qui prévaut, donc il est innocent.
Alors, on aura compris que Franz-Olivier Gisbert aussi honore la mémoire de ce Bernard Tapie que vous avez connu.
Je l'ai vu tel quel, c'est-à-dire qu'avec ses colères, on s'est tellement engueulé que de toute façon, je suis pas, comment dire, moi je suis jamais été un courtisan, vous voyez, j'ai pas écrit un livre pour sa canonisation. J'ai fait un livre parce que c'est un personnage extraordinaire et j'avais envie de le faire comprendre, et je pense qu'il a beaucoup de leçons à nous donner à tous. Il m'en a donné d'ailleurs beaucoup, j'ai appris beaucoup avec lui.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
En direct, vous me dites, il faut faire ça quand vous êtes trop long, François-Olivier Gisbert. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur RTL.fr.
Je suis passionné.
Tapie, c'était aussi, c'est ce que l'on retiendra le plus peut-être, c'était un homme de combat en 89. Bernard Tapie accepte une mission périlleuse à la demande du président Mitterrand, débattre face à Jean-Marie Le Pen. Il buvait du petit lait là, à ce moment-là, Bernard Tapie, ou il n'emmenait pas large à l'idée d'affronter Le Pen?
Je pense qu'il n'a pas peur. Mais il a jamais peur. Mais
est-ce qu'il buvait du tigre en se disant « ça y est, je vais monter sur le ring ».
Parce qu'il n'a pas peur, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'en fout. Je veux dire, tout risquer pour tout gagner. Non, jamais peur, non, pas peur. Pas peur de la mort, bien sûr. Oui, il n'aime pas la souffrance, ben, ça, tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur. En plus, comme il croit à la vie éternelle, la mort, franchement...
On reviendra sur son combat contre le cancer. Mais pour revenir donc à ce débat face à Jean-Marie Le Pen, donc il boit du petit lait. Il y va. Comme il monte sur un ring, quoi. Bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de débat quand on écoute ses joutes verbales?
Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur.
Mais c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez...
Non, mais soyez poli, monsieur. Vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, vous soyez poli.
Oui.
Vous avez dû apprendre à parler
La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi.
Est-ce que c'était du débat, ça?
Non, mais souvent le débat, c'est pas du débat. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tapie est quand même le seul qui est tenu face à Le Pen. Oui. Personne n'osait l'affronter.
À l'époque, en plus.
Pourquoi ? Parce que Le Pen était un bretteur absolument incroyable, une grande culture, beaucoup d'humour. Moi-même, je suis parti des pauvres cons, il y en a eu beaucoup, qui sont vite transformés en roquets devant lui. J'ai fait un débat assez long, j'étais pathétiquement nul. Et c'est un très mauvais souvenir. Mais c'était incroyable, parce que j'étais mauvais. Bon, c'était un peu mes débuts, j'ai appris depuis.
C'était impressionnant, alors,
justement. Mais non, c'est qu'il était trop bon. Ouais. Mais simplement, on apprend, ça s'apprend aussi. Mais... il y avait la culture et surtout un humour. Et là, Tapie, tiens. Alors, je dis pas qu'il écrase Le Pen, c'est pas vrai. Mais il tient. C'est-à-dire que Le Pen ne réussit pas à le démolir.
L'attaque était la meilleure défense.
Il a démoli un certain nombre de zozos, là, comme ça, ouais. qui sont allés faire l'opposition devant lui. Mais Tapie, il n'a pas pu
démolir. Pour Tapie, l'attaque était la meilleure défense, parfois.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Il vous mordait le mollet.
Oui, bien sûr.
Et puis, il vous lâchait pas.
Oui. Ouais. Avec vous parliez de Gouaille, toujours un petit sourire.
Il paraît que c'est Nathalie Saint-Cricq qui a confié un peu plus tard après le débat que Le Pen avait vraiment eu peur de s'en prendre une. Il pouvait aller jusqu'aux mains. Enfin, c'était un bagarreur.
Bien sûr, c'est un bagarreur. Mais de toute façon, Tapie, il faut comprendre, quand je vous disais tout à l'heure la Ferrari, je vous parlais de l'intelligence, parce qu'il y a une intelligence intuitive extrêmement rapide, mais le physique également. Il y avait un physique, c'était un sportif. Déjà, à l'époque, plus ces dernières années, quand il serrait la main, on comptait ses doigts après, parce que c'est l'impression d'une espèce de compote tellement il avait broyé, parce que ça, et ça c'est typique des gens qui font de la musculation, et il y avait du biceps, il y avait tout. Quoi.
Donc Jean-Marie Le Pen a vraiment eu la trouille.
Ah non, je pense pas du tout.
Pas de s'en prendre une.
Non
mais il paraît qu'il l'a dit en disant, mais quand même, je suis vieux, comment il m'a parlé, il m'a menacé physiquement.
Ouais, mais enfin, ça, c'est essayer de se victimiser, parce que, c'est de la politique, ça, je crois pas. Le Pen n'est pas le genre, en plus. Non, c'est que de la tactique, ça, pour dire, il a été méchant, parce que lui-même a été méchant aussi.
En tout cas, des audiences, quand même, à faire pâlir, parce que le débat a été suivi à la télévision par 10 millions de téléspectateurs deuxième partie de soirée, donc c'était un carton. Bon, allez, combat ultime, puisqu'on parle de l'homme de combat, celui contre le cancer des déclaré en 2017, Tapie monte sur le ring contre la maladie.
C'est un tunnel, c'est vraiment un tunnel. Et la méthode Coué, ça consisterait à dire « moi j'ai le moral, j'ai la pêche, etc. » Ça, ça marche pas. Il y a une seule chose qui marche. Une seule, c'est l'énergie. Parce que c'est l'énergie qui donne à vos défenses le moyen de combattre cette saloperie. Et c'est un vrai combat, c'est un truc à mort. Moi, je le traite de tous les noms, mon cancer. Je me lève le matin avec envie de lui péter la gueule. Et je fais tout pour ça.
Bon, là, on reste muet face à un discours pareil, qui a beaucoup, beaucoup aidé les malades du cancer.
Oui, bien sûr. Et ça, ouais. Il était content de le faire. Ces discours, par exemple, fréquents, il a fait souvent, vous savez, sur les antidouleurs. Ne prenez pas d'antidouleurs tout de suite. Attendez. Les antidouleurs, c'est pour la fin. Avant, battez-vous. Mangez sainement. Faites du sport. C'était son discours en permanence. C'est-à-dire que il avait toujours. Je parlais tout à l'heure des autres. C'est très important pour lui les autres. Il a toujours besoin des autres. Il est collectif. Je veux dire, c'est un ancien joueur de foot. Vous voyez, il a besoin toujours des autres.
Est-ce qu'on a vraiment connu Tapie ces dernières années? Je dirais l'homme Tapie. Dans son combat contre la maladie. Parce que là, pour le coup, il n'y avait pas d'histoire d'argent, il n'y avait pas d'histoire de malversation, il n'y avait pas d'histoire de tout ce qu'on veut, il n'y avait pas d'histoire de lumière, il y avait juste une histoire d'un homme face à son destin.
C'est un combat, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été combattu de tous les côtés. C'est-à-dire que moi, je me suis rapproché de lui, vous savez, j'étais pas très proche, moi, dans les années 90. Je me suis rapproché de lui, vers 2010, 2012.
Mais est-ce qu'on l'a vraiment découvert ces dernières années?
Quand j'ai vu. Comment dire, la haine autour de lui, tous ces gens qui voulaient le flinguer, le faire disparaître, que ce soit les médias ou les juges, et cet homme qui tenait toujours. Vous voyez, il était un peu comme le cerf en permanence. Bon, et il tenait toujours. Et c'est ça qui. Et face à la maladie, ça a été pareil. C'est l'homme qui tient. Qui tombe 7 fois, qui se relève 8 fois, qui ressuscite en permanence.
Mais il s'est révélé même aux yeux du public. Franz, il s'est révélé. Humain, il s'est révélé.
Parce
qu'on ne parlait plus. J'entends.
Oui.
Mais la façon dont le public l'a reçu, il y avait quelque chose justement. Je sais pas, de dénuder.
Voulait témoigner aussi pour les autres. C'est-à-dire que quand on a eu un cancer, moi ça m'est arrivé. On n'a pas beaucoup parlé tous les deux, bien sûr, du cancer. C'est que on comprend pas pourquoi. Ça, je cite, c'est un ami, le professeur Bernard Debré, qui disait toujours quand on a un cancer, il faut pas le dire parce que sinon les gens, quand ils vous regardent, ils considèrent que vous êtes mort. Et ça, c'est vrai. On supporte pas quand on a un cancer de penser que les autres vous considèrent que vous êtes mort. Donc ça, il a beaucoup lutté là-dessus. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il avait son cancer. C'était pas pour qu'on le plaigne, parce qu'il n'est pas là-dedans. Il a jamais été dans le. Vous voyez, on est aujourd'hui dans une civilisation de la plainte. Tout le monde est une victime. Lui-même, quand il était à terre et attaqué de toutes parts, y compris par des journalistes, enfin des choses horribles qu'on pouvait lire et qui étaient toujours fausses, enfin très souvent, parce que la presse l'a pas ménagé, c'est le moins qu'on puisse dire, avant de rabibocher avec lui, c'est vrai. Depuis qu'il a gagné son procès en première instance en 2019, c'est vrai que les choses sont moins pires. Mais jamais je l'ai entendu dire « j'ai été maltraité ». C'était bizarre, hein, c'est une forme peut-être d'orgueil chez lui. Mais non, alors à la fin, pour être honnête, il disait « j'en ai marre, j'en peux plus, c'est trop dur, voilà, c'est trop dur ». C'est une phrase qui revenait souvent.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous. François-Olivier Gisbert, vous restez évidemment près de nous pour parler de Bernard Tapie, dont on sent véritablement qu'il aura marqué votre vie et qu'il génère...
Oui, mais la vie des Français, je pense que c'est ça. C'est ça qui est frappant, c'est-à-dire l'émotion à Marseille, par exemple, c'est dingue.
Alors, on va revenir sur Marseille dans un instant, mais les hommages, là, depuis hier, ils semblent unanimes. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, alors bien sûr, il y a une fraction d'opinion. Vous savez, Tapie, c'est Pascal Praud qui a dit quelque chose de très juste là-dessus sur les passions tristes. Il connaissait pas la passion triste.
Spinoza.
Spinoza, les passions tristes, définition, la haine, l'envie, la convoitise, etc.
Les passions pas nobles, quoi.
Et Tapie n'était pas du tout là-dedans.
Ouais.
Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont des passions tristes en France. Et c'est vrai. Comment dire, ils sont beaucoup défoulés sur Tapie.
Il n'a pas laissé le même souvenir dans certaines villes de France comme à Marseille, on est bien d'accord.
À Marseille, parce qu'il aimait Marseille. Ouais. C'est-à-dire,
il est lié à l'histoire de Marseille.
Il n'a fait que passer à Lille, à Lens, ou, vous voyez, à l'occasion de matchs de foot. Et c'est vrai que Marseille avait une histoire d'amour, parce que quand il est venu, par hasard, comme je disais tout à l'heure, à Marseille, pour reprendre l'OM, par hasard, il a dit, mais cette ville est géniale. Et les Marseillais l'ont tout de suite adopté. Ouais. Quoi.
C'était, voilà. Et les Marseillais le pleurent, comme un dieu aujourd'hui.
Le pleurent parce qu'il avait compris quelque chose, c'est que, vous savez, dans des tas de villes de France, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, vous êtes français ? Non, moi je suis algérien, non, moi je suis autre chose, moi je suis anglais, moi je suis etc. Et à Marseille, partout, tout le monde, vous allez dans tous les quartiers, toutes les communautés, ils vous diront tous, je suis marseillais. Et c'est ça. Et Tapie, il était marseillais. D'ailleurs, il voulait en 2017, je me souviens très bien, il m'avait dit, il cherchait une maison.
Il venait d'apprendre son cancer.
Avant d'apprendre le cancer, il cherchait une maison pour s'installer, où il serait venu avec toutes ses bêtes de Comble-la-Ville, parce qu'il a beaucoup d'animaux là-bas, des chèvres, des poules, des tas de trucs, toutes les bestioles.
Vous m'avez dit, c'était un peu Brigitte Bardot.
Oui, parce que c'est ça, oui, il y avait, vous savez, Brigitte Bardot, il y a la Madrague, et puis il y a un autre truc qui s'appelle la Garrigue, où il y a, on dirait une ferme avec, il y a des mélanges de cochons, de chiens, de tout ça. Ça s'entend pas si bien, parce que les chiens, parfois, il peut y avoir des problèmes avec les poules, mais il y a des
vous aussi, vous êtes un peu Brigitte Bardot, etc. Dites donc, François Olivier Gisbert, je sais que les animaux sont importants pour vous.
J'adore. Et donc, il avait envie de transporter toutes ces bêtes à Marseille.
On va
mais
l'écouter.
Mais ça s'est pas fait, parce que évidemment, quand il a attrapé son cancer, le cancer, ça se soignait plutôt à Paris, même s'il est allé le soigner à un moment donné en Belgique, et puis surtout à Marseille, où il s'est passé, où il est allé à Paul-Huil-Calmette pour un traitement qui a réussi.
On l'écoute en 93, après la victoire de l'OM en Coupe d'Europe, il dédie la Coupe, justement, à ses joueurs et aux supporters marseillais.
Quand on voit les yeux de ceux qu'on a l'habitude de voir, on se rend compte que ça leur a vraiment fait un plaisir. Je ne sais pas si on pouvait leur faire un autre plaisir aussi grand.
Voilà, donc reconnaissance évidemment à Marseille. Bernard Tapie qui a souhaité être inhumé justement à Marseille, reposé à Marseille. Marseille où il était un dieu. Je voudrais que l'on parle justement de sa prière aussi. C'était un croyant à sa manière.
C'est pas à sa manière, il est très croyant et ça encore c'était quelque chose que j'avais pas le droit d'écrire, que j'avais pas le droit de savoir, et quand j'ai commencé à aborder le sujet avec lui, il me fusillait encore du regard, vraiment des regards noirs.
C'était trop intime.
Et j'ai réussi à quand même peu à peu sur plusieurs semaines comme ça à le faire parler, et il priait tous les jours. Vous voyez, je parle au présent, parce que
Tapie
est immortel. On a du mal à penser qu'il est mort. Même après la situation dans laquelle il était, on se disait toujours qu'il va s'en sortir. D'ailleurs, lui-même, il y a encore quelques temps, il était sur une nouvelle thérapie, un nouveau protocole. C'était le phénix. On se disait, ça va repartir. Et c'est vrai que... Ouais, c'est très touchant, ça, parce que, vous voyez, je me rends compte, je parle régulièrement au présent. Alors que vraiment... J'aurais dû penser qu'il allait mourir.
Tout le monde s'y préparait, mais néanmoins...
Il aurait dû mourir depuis longtemps. Mais alors donc, cet homme, il priait, donc je fais très attention d'utiliser l'imparfait maintenant, il priait entre 5 minutes et 1 heure par jour, le matin. Le matin, Il parlait et il croyait en Dieu et il croyait même à la vie éternelle. Et on s'engueulait là-dessus parce que moi, la vie éternelle, je sais pas trop. Moi, je suis plutôt spinoziste, vous voyez, donc panthéiste, si vous voulez. Ben, je crois en Dieu, mais un Dieu panthéiste. Mais lui, non, il était vraiment...
Il était animé par la foi.
Ouais, animé par la foi et une foi, comment dire, rigoriste et traditionnelle.
Est-ce qu'il va vous manquer ?
Les engueulades, ouais, bien sûr, les coups de fil, oui, puis les mots, enfin la gentillesse aussi, puis la taquinerie, puis les moqueries, et puis oui, bien sûr, parce que c'était, il y avait quelque chose d'un showman en permanence, et dans la vie, il était un peu comme ça aussi. Vous voyez bien, vous l'entendiez sa voix.
C'était un showman aussi
dans la vie, voilà. Et puis il pouvait appeler en hurlant, et en fait, c'était juste une blague. Vous voyez, c'était comme ça. C'était la vie était une fête, oui.
Merci beaucoup François-Olivier Gisbert d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle donc votre livre, Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour, aux éditions Presse de la Cité.
À l'aventure, évidemment, réussis ta vie.
Et en plus, il avait une jolie voix. Ne parlez pas, on est en retard. Mais il avait une super jolie voix, en plus de tout le reste.